Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale, alors que nous vivons les dernières semaines de l'année 2021, non sans inquiétude compte tenu d'une situation sanitaire de nouveau incertaine. Espérons que la dégradation actuelle ne va pas venir perturber une fois de plus la saison culturelle en cours. Comme c'est la coutume, il y a beaucoup de spectacles, de concerts à cette période de l'année et nous croisons les doigts pour que tous puissent avoir lieu dans les meilleures conditions pour le public et pour les artistes. En tout cas, à Mélomanie, nous gardons le cap et je vais avoir aujourd'hui encore le plaisir d'animer cette émission avec Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Il est accompagné de son alter ego Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Notre trio est ainsi reconstitué pour vous annoncer et vous présenter les événements musicaux à venir, notamment la Flûte Enchantée, dont une nouvelle production est à l'affiche du Théâtre du Capitole du 19 au 30 décembre. C'est à découvrir en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, place à l'actualité musicale récente avec notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie, retour arrière.
Nous allons revenir d'abord sur un événement qui date d'un peu plus d'une semaine, le concert Une nuit de Noël donné par le Consort Apollon. C'était le lundi 6 décembre à l'église Saint-Nicolas à Toulouse. Un concert dirigé par Clément Lanfranchi, le fondateur et directeur musical de ce jeune ensemble sur instruments anciens que nous suivons depuis ses débuts, Serge Chauzy. Nous étions tous les deux à ce concert et nous avons passé un très bon moment à écouter un programme franco-italien tout à fait de circonstance.
Double circonstance, puisque ce 6 décembre, en l'église Saint-Nicolas, c'était le jour de la Saint-Nicolas. Donc, formidable pour annoncer les fêtes de Noël, donc ça tombait bien. Clément Lanfranchi avait concocté un programme qui était une sorte de confrontation pacifique entre le style italien et le style français à la même époque, puisque les trois compositeurs qui étaient au programme ont des dates de naissance qui sont dans 15 ans, 15 années à peu près les séparent en tout. Donc voilà, c'est vraiment des musiques contemporaines entre elles, mais différentes de style. Et effectivement, alors le concert s'est ouvert avec un concerto in forma di pastorale, donc ça dit tout ce que ça veut dire, à 4, de Giuseppe Torelli. Alors, Clément Lanfranchi, comme à son habitude, présente les œuvres, ce qui est très bien et qu'il fait avec beaucoup de talent. Et donc, il nous a expliqué qu'il s'agissait là peut-être du créateur du concerto avec soliste, avec un seul soliste. Jusque-là, c'était surtout des concerto grosso, concerti grossi, pour un pluriel italien. Et donc, voilà, on a eu d'abord ce concerto à 4, un concerto vraiment très très beau, très lyrique, et avec 4 solistes accompagnés, donc en l'occurrence, et un beau continuo, une musique qui, moi, m'a fait penser à une musique épicurienne, c'est-à-dire du bonheur, de la joie, tranquille. Donc un très beau moment là pour cette première œuvre italienne. La deuxième œuvre est également italienne, et là c'est un tube en quelque sorte, hein, un tube des musiques de Noël, puisque c'est d'Arcangelo Corelli, le concerto grosso que nous appelons en français de la nuit de Noël et qui en italien est Fatto per la notte di Natale, ce qui veut dire à peu près la même chose.
Oui, on peut dire la nativité si on préfère.
La nativité, voilà. Alors avec deux traversos, donc deux flûtes traversières baroques qui viennent se joindre aux cordes et donc un groupe de solistes là aussi, deux violons, un violoncelle et ce qu'on appelle le ripieno qui était ensemble, qui harmonise la basse continue. Alors avec une quantité de mouvements impressionnante, hein, puis ça commence par un vivace grave, puis un allegro, puis un adage, puis un vivace, etc. Donc, comme toujours dans la musique italienne, là aussi, le plaisir d'alterner les mouvements lents, mouvements vifs, rapides.
Oui, c'était assez classique à l'époque, oui, hein, oui, cette oui, structure, fait, oui. Voilà, avec effectivement beaucoup de mouvements, 6 en tout.
Oui, hein, oui, 6 mouvements, et à l'intérieur de chaque mouvement, il y a plusieurs sections en plus. Donc, vraiment une musique très diverse, une musique musique-là aussi du bonheur. Et on a pu constater, d'abord, cette alternance des affects. Hein, à l'époque, c'était très important. Et puis, la précision de la direction de Clément Lanfranchi, vraiment une belle précision. Il y a maintenant une vraie cohésion entre les musiciens et le chef, absolument de très haut niveau.
On semble très jeune, je le répète, il n'a même pas 2 ans hein, d'existence.
Exactement. Eh bien la cohésion s'est établie, la complicité même entre très bien. Avec ce dernier mouvement de ce concerto de Corelli, qui est ce mouvement, la pastorale, donc c'est une espèce de tendre évocation de la crèche. Et donc c'est très, très touchant.
Crèche qui était d'ailleurs sur le côté de la scène et de l'orchestre.
Exactement, oui, sous nos yeux. Alors ensuite, la dernière partie de ce concert, un concert assez court, hein, c'était pas un concert...
Parce qu'entre les présentations et les morceaux en eux-mêmes, il y avait une petite heure à peine.
Oui, c'était... Mais ça allait très très bien.
Ça donnait un côté très dynamique aussi.
Exactement, hein. Exactement. Et donc la dernière partie, la dernière partie de ce trio, en quelque sorte, c'était le volet français du programme et qui rendait justice à Marc-Antoine Charpentier, bon, le fameux rival, un temps malheureux, du signor Lully, donc, qui avait pris toute la place.
Hein, à la cour de Louis XIV.
Auprès de Louis XIV. Donc, c'était son Noël sur les instruments et qui est en quelque sorte un hommage raffiné aux mélodies traditionnelles et populaires hein, de la célébration de Noël. Alors avec des titres tout à fait évocateurs, hein, très amusants, hein, « Les bourgeois de Châtres »,« Où s'en vont ces gais bergers »,« Joseph est bien marié », enfin voilà, des titres bien français, avec cette espèce d'éloquence musicale que l'on trouve toujours dans la musique de Charpentier, et qui est très différente du style italien, hein, vraiment. C'est...
Oui, d'ailleurs c'est intéressant de confronter les deux musiques de cette époque, de part et d'autre des Alpes.
Oui. Et c'était vraiment un beau choix que de faire cette dichotomie, en quelque sorte, entre les deux styles. Et donc, ça a eu beaucoup, beaucoup de succès. Vraiment, l'église était bien remplie. Il y avait du monde intéressé, des gens intéressés par ce programme, au point que donc l'ensemble a joué en bis, a rejoué le Vivace, donc de ce fameux concerto de Corelli. Donc, autant de vœux formulés pour ces fêtes à venir, voilà.
Et je précise que ce concert a été enregistré par Radio Présence et qu'il sera diffusé un peu avant Noël sur nos ondes, je vous donnerai la date précise dans quelques temps. Parmi les 3 œuvres jouées par le consort Apollon le 6 décembre à l'église Saint-Nicolas, il y avait donc le très beau concerto Grosso opus 6 numéro 8 Fatto per la notte di Natale d'Arcangelo Corelli. Comme ce concert a été enregistré, je peux vous proposer un extrait de son 2e mouvement Adagio comme si vous y étiez. Le voici donc interprété par le consort Apollon.
Thank you.
deuxième mouvement Adagio du Concerto Grosso opus 6 numéro 8 Fatto per la Notte di Natale d'Arcangelo Corelli, interprété par le consort Apollon sous la direction de Clément Lanfranchi. C'était le lundi 6 décembre à l'église Saint-Nicolas de Toulouse, lors de l'enregistrement par Radio Présence de ce concert Nuit de Noël. Nous allons le diffuser prochainement. Je vous informerai, comme je vous l'ai déjà dit, de la date exacte dès que possible. Il y a eu également un concert de l'Orchestre National du Capitole vendredi à la Halle aux Grains, avec un chef invité, le Britannique Ben Glasberg, et un soliste invité également, le violoncelliste français, lui, Jean-Guillain Queyras. Le programme de cette soirée était particulièrement éclectique et alléchant. On y trouvait entre autres deux compositrices, Serge Chosy, mais pas du tout de la même époque.
Oui, pas du tout. Mais bon, c'est l'un des premiers concerts auxquels j'assiste, dans lequel la parité est assurée, la parité
entre les compositeurs.
Entre les compositeurs et les compositrices. Donc, deux œuvres de compositeurs, deux œuvres de compositrices, et donc sous la direction de Ben Glasberg, bon, qui a déjà dirigé l'Orchestre National du Capitole. C'est lui qui dirige l'orchestre dans l'enregistrement du concerto de Aranjuez avec Thibaut Garcia comme soliste. Donc, il avait déjà pris un contact très sérieux avec l'Orchestre National du Capitole. En plus, c'est un chef qui adore la musique française, qui parle un français parfait. Donc, il y a une interview sur Internet, une vidéo de l'interview qu'il a donnée à Toulouse. Je conseille les auditeurs de s'y connecter. On est vraiment très étonnés. C'est un chef qui a vraiment la fibre française.
Mais jeune chef.
Hein. Jeune chef, oui. Absolument, qui a été vainqueur du Grand Prix au 5e concours international de jeunes chefs d'orchestre de Besançon, donc ce qui est quand même une référence. Hein. Il y a eu de grands chefs à Besançon, Michel Plasson en fut
par exemple
jadis. Et donc, il est maintenant devenu directeur musical de l'Opéra de Rouen. Et bon, il est très actif, il fait beaucoup de choses, donc c'était très intéressant de l'avoir donc ici. Et donc, il a dirigé ses 4 œuvres complètement différente, à commencer par une œuvre de Louise Farenc, qui est née en 1804 à Paris, où elle est morte en 1875, et elle était à la fois compositrice, pianiste et professeure de piano. J'avoue que j'ai découvert sa musique, hein, je connaissais son nom, mais pas sa musique. Et donc, on a découvert quand même, alors dans cette ouverture numéro 1 à mi mineur, une œuvre courte, hein, mais un sens de la structure musicale très fort. En particulier, alors si on, c'est toujours délicat, mais s'il fallait tenter une comparaison avec les grands compositeurs de la même époque, eh bien, on pourrait quand même évoquer Beethoven ou Mendelssohn. Donc c'est dans ce style-là, une belle musique, mais bon, laissons-lui l'originalité de son style.
Ouais, elle est plutôt contemporaine de Chopin, de Liszt.
Oui, voilà. Mais
ça évoque années, un peu... Leur aîné, ouais.
Voilà, ça évoque un peu les musiciens de la... Juste...
Ah, c'est une pure romantique.
Ah oui, complètement. Vraiment. Oui. Très, très, très bien. Bon, une belle découverte. Ensuite, on changeait complètement de style, puisqu'on remonte dans l'histoire avec le concerto pour violoncelle numéro 1, Annus Majeur, de Joseph Haydn. Alors, n'oublions pas que ce concerto avait été oublié, perdu, et qu'on l'a redécouvert en 1961, ce qui est tout de même incroyable.
Incroyable, oui.
Et depuis, c'est devenu la coqueluche des grands solistes. Je me souviens d'avoir vu Mstislav Rostropovitch à Toulouse, dans ce concerto numéro 1 de Joseph Haydn.
C'est heureux qu'il ait été retrouvé parce qu'il est vraiment magnifique.
Ah, magnifique, magnifique. Donc, et évidemment, Jean-Guillain Queyras, que l'on connaît bien à Toulouse,
oui,
est un grand violoncelliste, un grand artiste qui a magnifiquement joué. Alors, avec notamment dans l'introduction, ce modérate a une espèce d'autorité, d'éloquence qui s'impose immédiatement avec poésie de l'adagio, où on le retrouve très inspiré vers un romantisme un peu contemplatif. Et puis, alors là, l'allegro molto, lui, l'étincelle de mille feux, hein, c'est la joie, l'esprit aérien, des traits virtuoses incroyables. Signalons qu'il a concocté des cadences que je suppose, dont une partie a été improvisée, une improvisation qu'il a travaillée, évidemment, vraiment très virtuose, très bien soutenue, un très beau moment, un grand, grand, grand musicien. Il a été acclamé vraiment par le public, et du coup, il est revenu jouer un bis, oh, ça n'étonnera personne, extrait des suites pour violoncelle seul de Bach, et avec notamment la sarabande de la 4e suite. C'était une sorte de d'émouvante confidence qu'il nous a joué avant de quitter le plateau.
Alors oui, j'ai dit qu'il était français, Jean-Guillain Queyras, je crois qu'il est franco-québécois, alors je le dis pour les Québécois qui nous écoutent. Et puis alors après, c'était la benjamine de ce programme.
Voilà, la
et
benjamine.
Et elle était présente d'ailleurs, je crois.
Ah, qui était présente, qui est venue saluer, effectivement, qui s'appelle Camille Pépin, qui est née en 1990,
Donc, 31 voyez, ans. Hein.
31 ans.
Incroyable.
Une allure de presque de petite fille.
Ah oui, presque d'adolescence.
Elle est adorable d'abord, très belle.
En plus.
En plus. Et qui a présenté une pièce courte en 5 sections qui s'appelle, alors vous m'excuserez pour la prononciation, Vajrayana, et qui est inspirée par... comment dire, la religion tibétaine, en quelque sorte.
Oui, oui.
Voilà ce qu'elle écrit. S'il existe 5 éléments dans la religion tibétaine, qui sont la terre, l'eau, le feu, le vent et l'espace, ils se définissent comme des énergies fondamentales et sacrées de l'existence rencontrée dans la dimension psychique des êtres. Oui, ça va très loin.
C'est un programme,
ah, oui, un programme que j'avoue, il n'est pas nécessaire de connaître a priori, puisque sa musique est à la fois riche et colorée, avec une orchestration et surtout un déploiement rythmique impressionnant, d'une diversité et d'un relief tout à fait étonnant. Donc il y a notamment dans le déroulement de ces 5 petits mouvements, un solo de cor, un solo de trompette qui viennent un peu épicer le relief de l'orchestration, et puis des percussions. Pas mal de percussions qui enrichissent considérablement le propos. Donc, vraiment un moment découverte qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup séduit. Donc, c'est une créativité qui est à suivre absolument de cette jeune compositrice.
Alors, Camille Pépin, me semble-t-il, avait été nommée dans la catégorie compositeur aux dernières victoires de la musique classique et nul doute qu'elle le sera encore dans les années qui viennent. Et pour la situer un peu musicalement, c'était une élève de Thierry Esquèche, de Guillaume Connaisson.
Voilà,
voilà un peu
des compositeurs
la filiation.
Connus, hein, compositeurs, absolument. De bons compositeurs français.
Et puis alors, ça se terminait par...
Ah bah alors là, on revenait dans l'ADN de l'Orchestre National du Capitole, puisqu'il s'agissait de la deuxième suite de Daphnis et Chloé, de Maurice Ravel. Bon, une œuvre que l'orchestre connaît parfaitement, hein, évidemment. Et donc avec notamment ses premières mesures du lever du jour, hein, qui révèle une sorte d'impressionnisme pictural magnifique, avec ce solo de flûte complètement génial et qui a été magnifiquement joué, il faut le dire et le redire, par Sandrine Tilly, qui a vraiment...
On connaît le talent de Sandrine
Tilly. On connaît son talent, mais là...
Et notamment dans ce genre de musique, dans la musique française, Ravel ou Debussy, lorsqu'il s'agit du prélude à l'après-midi d'un faune.
Ouais, exactement.
Elle fait toujours des choses merveilleuses.
Non, ça a été magnifique, avec surtout les jeux sensuels de la partie pantomime. Et puis la danse générale, alors frénétique, d'un rythme... insupportable tellement ça s'accélère, alors ça atteint des sommets, une explosion finale magnifique. C'est vraiment une belle direction dont on peut remercier Ben Glasberg, qui apparemment connaît bien cette musique.
Ah, s'il adore la musique française,
il l'aime
forcément
énormément.
Il adore Ravel.
Ah oui, il adore Ravel. Donc très intéressant, très beau concert, très varié, ouvert. Bravo.
Oui,
bravo,
parce qu'il y avait des découvertes, il y avait des classiques comme Daphnis et Chloé,
grand classique,
et puis Haydn. Ce concerto de Haydn qu'on n'entend pas si souvent que ça, finalement.
Non, pas si souvent. Et donc, dont on se réjouit qu'il ait pu être retrouvé. Hein.
Et en plus, joué par Jean-Guillain Queyras, eh bien, puisque...
Et Jean-Guillain Queyras, oui, je voudrais préciser, s'est adressé à la salle pour dire son bonheur d'être de nouveau enfin à Toulouse avec un public et son bonheur de jouer, comme il a dit, avec cet excellent orchestre. Donc, il a rendu un hommage très... Très,
on l'avait
très
vu
remarqué.
Il y a quelques années, je crois que c'était la saison des Arts Renaissants, les grands interprètes, je ne sais plus, avec Alexandre Tarot. Ils avaient joué tous les deux sonates pour violoncelle et piano. Eh bien, Jean-Guillain Queyras, on va l'écouter dans ce concerto pour violoncelle numéro 1 en ut majeur de Joseph Haydn, magnifique, notamment son deuxième mouvement Adagio, que voici interprété par le grand violoncelliste franco-québécois. Thank you. Le deuxième mouvement Adagio du concerto pour violoncelle numéro 1 en ut majeur de Joseph Haydn, interprété par Jean-Guillain Queyras, avec qui nous terminons cette première partie d'émission. Petite pause avant l'agenda de Mélomanie avec Serge Chausier et Robert Pénavert. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Et revoici Serge Chausier, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que les journées Côté Toulouse et La Voix du Midi. Je vous l'annonçais en début d'émission, La Flûte Enchantée, l'ultime opéra de Mozart, est donné au Théâtre du Capitole du 19 au 30 décembre. Dans une nouvelle production, 9 représentations sont programmées. Pour être précis, il n'y a relâche que les 20, 24 et 27 décembre. Pierre Rigal, jusqu'alors connu surtout en tant que chorégraphe de renommée internationale, va faire ses débuts dans la mise en scène lyrique. Nous allons y revenir. Mais d'abord, Robert, la question rituelle lorsqu'il s'agit d'opéras célèbres. Quand a été créée pour la première fois à Toulouse la Flûte Enchantée et à quand remonte sa dernière production en date? Est-ce que vous avez ça dans vos archives?
Alors, la création de la dernière production, je n'avais pas prévu d'en parler, mais ce que je peux vous dire, c'est que la dernière fois que la Flûte Enchantée a été donnée à Toulouse, c'était à la Lougrin.
Ah, c'est ce que me disait Serge il y a quelques jours.
Voilà, et c'était dans cette somptueuse production, magnifique, enchanteresse, magique, qui plaisait aux grands comme aux petits, signée Nicolas Joël. Qui Nicolas Joël, en l'occurrence, faisait là ses débuts, je pense, dans la mise en scène d'un opéra de Mozart. Mais ce n'était pas en 2010, c'était la dernière reprise.
Oui, oui, ça date. Hein.
Voilà. Elle a été donnée 3 fois, je crois.
Elle a été donnée trois fois, oui. Malheureusement, c'était un décor gigantesque, en fait, décor, parce que même la fosse d'orchestre était tournante, en fait. Il n'y avait guère que la Lohengrin pour accueillir ce genre de spectacle.
Et puis, cette envergure.
Dans les ateliers de décor, elle prenait une place incroyable. Et nous ne la verrons plus, puisqu'elle a été détruite, mais il en va ainsi, comme ça, de tout un tas de mises en scène. Oui. Qui, voilà, au bout d'un moment, elles sont passées, puis on ne peut pas les reprendre en permanence, comme fait le Métropolitain avec certaines œuvres qui reprennent depuis 50 ans. Voilà, bon, à Toulouse, ça tourne un peu plus quand même.
En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a longtemps que ça n'a pas été donné à Toulouse.
Hein. Mais 12 ans maintenant, oui. 11 ans, à dire vrai, voilà.
2010, hein, c'est ça.
Ouais, 2010, ouais. Ouais, voilà. Et c'est évidemment un grand, grand plaisir de retrouver cette œuvre magnifique. Et d'ailleurs, ce que je peux vous dire, c'est que le public afflue en masse et il ne reste plus que... Il reste encore quelques places, certes, mais...
Heureusement, il y a 9 représentations.
Oui, 9 représentations. Je pense qu'il y en aurait 10, 11 ou 12, ça aurait été pareil. Et voilà, d'autant qu'il le donne avec 2 distributions sur lesquelles nous reviendrons, évidemment, je suppose, Eric, au cours de cette émission. Voilà.
Mais est-ce que ça a souvent été donné tout de même à Toulouse, malgré tout?
Oui. La flûte fait partie des Mozart donnés le plus souvent. Avec les noces de Figaro.
Oui, mais les noces, même, je pense que c'est un peu partout dans le monde que c'est.
Oui,
c'est
mais
des œuvres
les noces
données,
partout.
Je pense, sur scène.
Alors, dans le monde, c'est la flûte qui est le plus donné, parce que c'est. Alors, je ne sais pas si c'est à cause des 2 airs de la Reine de la Nuit, ou je ne sais pas, ou si c'est le thème. J'ignore, mais c'est très connu. Quoi. Les airs de la Reine de la Nuit sont aussi connus que la donne à Immobilier dans Rigoletto.
Oui, enfin, oui. Ça, alors c'est vraiment que c'est, les tubes.
À vrai dire, ça n'a pas.
Les airs d'opéra.
Ou alors le Nessun Dorma dans Turandot. Voilà, alors que mais ça n'a pas grand-chose à voir.
Mais hein. En plus, c'est une œuvre qui plaît aux grands comme aux petits.
Voilà.
Oui, c'est ça qui est formidable. C'est un peu magique, féerique, évidemment. Oui,
hein. Voilà, alors ça dépend des productions.
Ça dépend comment, effectivement. Ça, on va en parler,
mais,
justement.
Parce voilà,
c'est une œuvre qu'on peut attraper, si je puis dire, de plusieurs façons. Et restituer de plusieurs façons sur scène.
Voilà, alors... Simplement pour le situer, mais en 2 mots, dans l'œuvre de Mozart, ça fait partie de ses dernières, puisque le Köchel de cette œuvre, vous savez, Köchel, c'est
la numérotation catalogue,
voilà, du catalogue.
Les œuvres de Mozart.
Voilà. Le Köchel de la flûte, c'est 620, la Clémence de Titus, 621, et le Requiem, 626. Et toutes ces œuvres ont été créées, évidemment, la dernière année de la vie de Mozart, donc en 1791. Voilà. C'est un Singspiel. Alors, Singspiel, ça veut dire quoi? C'est tout simplement, c'est un opéra comique tel qu'on l'entend en France.
Il y a des parties, traduire en français.
Il y a des parties parlées, voilà, tout simplement. Et puis, il y a des parties tragiques, des parties qui le sont un peu moins. Mais c'est vraiment la réplique un peu de l'opéra comique français, en termes de structure, bien évidemment. Alors, c'était une œuvre qu'il y a été commandé par un personnage haut en couleur, semblerait-il, qui était directeur d'un petit théâtre populaire de la banlieue de Vienne, qui s'appelait Schikaneder, et qui avait déjà programmé dans ce petit théâtre, mais qui était vraiment un théâtre très populaire. Je veux dire, il n'y avait pas de fauteuil, il y avait des bancs. C'était très populaire.
Oui, il ne faut pas imaginer le grand opéra tel qu'on peut l'imaginer, tel qu'on peut le voir au Théâtre du Capitole, par exemple.
Il avait déjà programmé auparavant des œuvres de Mozart. C'était un compositeur qu'il aimait beaucoup. En plus, il avait des relations spirituelles très avancées.
On peut le dire, ils étaient dans la même loge maçonnique. C'est pas interdit de le dire.
C'est ça. Alors, c'était un personnage protéiforme. Il était acteur et chanteur, et metteur en scène. Et ici, en plus, dans la flûte enchantée, qui est une commande de Schikaneder à Mozart, il est librettiste. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il ne sera pas le seul librettiste, puisque Mozart a mis la main sur le livret aussi, mais d'autres également ont mis la main sur ce livret. Alors, après, c'est un chef-d'œuvre. On peut pas. S'il y a un terme qui n'est pas galvaudé ici en parlant de la flûte enchantée, c'est celui de chef-d'œuvre qui conjugue, comme vous l'avez déjà annoncé, Eric, la trame maçonnique, qui est par définition évidemment philosophique, et puis des épisodes comiques qui sont très liés au personnage de l'oiseleur, Papageno. Voilà. Ce qui entraîne Mozart, évidemment, pour suivre ces deux trames, une dramatique, philosophique, métaphysique, et l'autre plus comique et populaire, ça l'entraîne à composer une musique très savante, qui correspond d'ailleurs à des normes maçonniques, et en termes de rythme en particulier, et puis une musique populaire. Voilà, c'est Mozart lui-même qui a dirigé la création.
Oui.
Et c'est Schikaneder lui-même, d'ailleurs, qui sera Papageno. Voilà. 10 ans après l'œuvre, après sa création, c'est-à-dire, on va dire, en 1801, donc, si on veut être très précis, l'œuvre était déjà à l'affiche de plus d'une centaine de théâtres et va conquérir le monde entier. Et comme nous disions tout à l'heure, et l'œuvre de Mozart la plus représentée, la plus réclamée par le public.
Mais voilà. Lui, il n'aura malheureusement pas vécu assez longtemps pour découvrir le succès.
Quelques semaines à peine. Hein.
Oui.
Il avait dirigé la première et puis c'est tout. Et puis il est mort quelques semaines après.
Il est mort justement au mois de décembre.
Le 5 décembre.
Alors, ce spectacle est donné dans le cadre d'une coproduction. Alors, on parlait de l'opéra de Rouen-Normandie, au sud de Blain-Glasberg. Voilà, c'est avec l'opéra de Rouen-Normandie. Mais c'est nous qui inaugurons
la production, la création cette production est à Toulouse.
Voilà. Et donc, comme je le disais, alors c'était le message à l'attention de nos auditeurs. Si vous voulez aller voir l'une de ces 9 représentations, ou plusieurs d'ailleurs, précipitez-vous.
Dépêchez-vous.
Parce qu'il ne reste plus beaucoup de place. Voilà. Ensuite, pour parler des interprètes, parce que quand même,
Mais d'autant plus qu'il y a une double production. Distribution.
Oui. Alors, il n'y aura qu'un seul chef d'orchestre. Ce n'était pas celui qui était prévu.
Il n'était pas prévu, effectivement.
Il n'était pas prévu au départ. C'était Michele Gamba, qui était initialement prévu, d'ailleurs qui figure dans la plaquette du programme. Et puis, en définitive, alors, juste une petite parenthèse, c'est lui qui dirigeait les dernières reprises de Macbeth au Capitole avec Béatrice Uria Monzone, Vitaly Billy. Et il ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable, honnêtement. Et quand j'ai vu que c'était lui qui dirigeait, j'étais un peu pas anxieux parce que les choses graves sont ailleurs.
Si je peux me permettre, je pense qu'on n'a pas perdu au change.
Voilà.
En récupérant Franck Berman.
Après, on apprend que c'est Franck Berman.
Qui est déjà venu.
Qui est déjà un
Parsifal bon
somptueux. Electra, il y a peu de temps, absolument magnifique, extraordinaire. Donc, alors, évidemment, Parsifal, Electra. La flûte, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, on va voir là quel est le véritable talent de ce chef d'orchestre.
Mais il y avait un autre très grand chef d'orchestre qui dirigeait très bien les trois, c'était Carl Böhm.
Oui, bien sûr.
Qui dirigeait aussi bien Mozart que Richard Strauss et Wagner.
Absolument. Absolument.
Bon, je suis assez confiant sur la partie direction.
Moi aussi, mais bon, là il a une preuve supplémentaire de nous montrer un peu quel est son talent. Voilà. Alors évidemment, on va passer maintenant, si vous voulez bien, à Pierre Rigal, qui est quasiment le local de l'étape. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il est né...
Il est né à Moissac.
À Moissac.
Donc, oui, mais enfin, il a fait ses études à Toulouse.
Toutes ses études à Toulouse.
Et alors, sa carrière aussi.
Là aussi, on a un personnage un peu protéiforme, du moins... Oui. On va dire un étudiant protéiforme. Voilà.
Oui, oui.
Puisque donc, à Toulouse, il a obtenu une maîtrise économie mathématique. C'est quelque chose qu'on est un peu, qui est quand même assez trapu, un peu loin peut-être de la musique. Il a un DEA de cinéma.
Ouais,
également.
Alain de Save, à Toulouse aussi.
Voilà. Donc, en plus, pendant tout ce temps-là, il est devenu un athlète de haut niveau,
en particulier
spécialisé dans le 400 mètres et le 400 mètres haies. Donc,
vous voyez, tout ça, c'est
assez extraordinaire, mais enfin, comme quoi.
Avoir été un athlète de haut niveau, ça peut être pas mal pour la danse, par contre.
Voilà. Oui. Alors, c'est ensuite vers la danse, lorsqu'il avait 23 ans,
qui s'est dirigé.
Voilà. Et donc, il a commencé à danser en solo, puis en groupe, et puis finalement, il est devenu chorégraphe et il a créé une compagnie qui s'appelle la Compagnie Dernière Minute. Voilà. Dans tous les cas, nous avons le plaisir d'assister à sa première incursion dans le domaine de la mise en scène,
de la mise en scène lyrique. Cette production.
Et alors, je sais, Christophe Grissier, le directeur du Capitole, me l'avait dit, mais il y a déjà quelques temps de ça, il y avait donné une consigne. Il y avait dit, bon, c'est un peu comme Tintin, hein. C'est-à-dire de 7 à 77 ans. Il ne s'agissait pas de faire une œuvre, disons, une thèse de 24e cycle en philosophie comportementale ou je ne sais trop quoi. Voilà,
oui.
Quelque chose donc, encore une fois, je le dis à l'attention de nos auditeurs, vous pouviez, disons, on va dire, à partir de 7-8 ans, vous pouvez sans problème y amener vos enfants.
Voilà. La féerie de la flûte va bien être présente.
Oui, oui, absolument. Alors, ça va être une flûte... Alors, non pas travailler, c'est pas ce que je veux dire, ça va être une vision de la flûte.
Mais je crois que ça s'y prête, de toute façon, chaque metteur en scène peut en donner sa vision.
J'en ai vu une sur... Enfin, je suis pas arrivé jusqu'au bout, à vrai dire, hein, sur YouTube, et où Sarastro, c'était Ben Laden. Donc, on peut aller très loin. On n'est pas obligé d'applaudir à ce genre de choses, mais bon, mais on sait que
c'est très à la mode.
Parce que
des metteurs en scène qui dénaturent complètement certaines œuvres. Oui.
Voilà. Alors ensuite, il y a quand même des études sérieuses sur le fait que la nuit, la reine de la nuit, le soleil, Sarastro. C'est quelque chose qui, effectivement, philosophiquement, se discute, et les maçons en discutent beaucoup de ça. Il est pas très sûr que ce soit aussi une dichotomie aussi tranchée que ça. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si des metteurs en scène souhaitent un peu retravailler le concept que nous avons l'habitude de voir dans la mise en scène romantique que nous voyons depuis très longtemps, en définitive, bon, bah, c'est pas forcément idiot. Alors, allez, jusqu'à Ben Laden, là, je sais pas, de toute façon, à vrai dire, je sais pas pourquoi j'en parle, parce que je suis pas allé jusqu'au bout.
Après qu'on donne des interprétations de l'œuvre différentes, oui, bien entendu, puisque d'une certaine manière, c'est fait pour.
Voilà.
L'œuvre est riche, hein.
Oui.
Voilà. Il va y avoir, c'est la richesse de l'œuvre, oui. Effectivement.
Oui. Il y a énormément de symboles dedans.
Voilà. Alors, ce que je crois, il y a deux personnages qui n'appartiennent pas, entre guillemets, à l'œuvre, qui seront présents, c'est Schikaneder et Mozart.
Oui.
Voilà. Mmh. Alors, après, je ne peux pas vous en dire davantage, parce que je ne sais pas.
Il faut y aller.
Je ne sais pas.
Il faut y aller.
Voilà. Mmh. Voilà. Donc, écoutez, c'est, pour le coup, ça... Ça va être intéressant à découvrir.
Alors, la distribution...
Alors, la distribution est double. Et franchement, après l'avoir un peu travaillé avant de venir à votre émission, Eric, il y en a une première et une deuxième. Alors, très souvent, quand c'est la deuxième distribution...
Bon, on dit chez les remplaçants.
Un peu, oui. C'est ça. Alors là, ce n'est pas du tout le cas. Il y a deux distributions. Et franchement, les uns peuvent remplacer facilement les autres. Bon, alors ceci étant dit, parlons de ces chanteurs. Alors, on va commencer peut-être, pas forcément par ordre d'entrée en scène, mais si, en l'occurrence pour le premier, c'est le Tamino de Bruch Magnus Todenes, qui est un Norvégien. Alors, vous vous en souvenez, certainement.
Oui, on l'a déjà vu, effectivement.
Voilà, et c'est lui qui est venu au Capitole pour chanter le second Macduff des dernières reprises de Macbeth. Voilà. Et franchement, il était... Alors, il est jeune, hein, aujourd'hui, je crois qu'il a 28 ou 29 ans. Hein, et vraiment, il avait été...
Je me rappelle qu'il avait beaucoup impressionné.
Extraordinaire, oui. Hein, mais vraiment extraordinaire. Ouais. Et depuis, bon, Macbeth, ça date d'il y a quelques années. Et depuis, bon, bah, il commence à faire une carrière plus que sérieuse. Et c'est un grand bonheur, évidemment, de l'avoir à Toulouse. Il a comme partenaire dans ce rôle... un Français qui s'appelle Valentin Thiel. Alors Thiel, T-H-I-2-L, je ne pense pas qu'il ait de parenté avec Georges.
Georges Thiel.
Voilà. Ah. Et, mais si c'était,
creuse,
si,
vérifier,
si,
même,
si c'était le cas, vérifier. Je pense que... Non, je pense que ça se saurait. Mais si c'était le cas, bon, je ne pense pas qu'il faudrait qu'il en ait honte. Et il est né à Rouen, il a grandi à Toulon. Et il a été révélé, enfin du moins, il m'a été révélé lors du concours de chant de la ville de Toulouse, puisque j'ai eu le bonheur de l'entendre dans la demi-finale et ensuite dans la finale, où il a chanté Gérald, où il a chanté Nadir, et où il a fini avec un Lenski, qui, à mon avis, valait largement le premier prix. Non seulement Gérald et Nadir, mais plus le Lenski, ça valait largement le premier prix par rapport au premier prix qui a été attribué, auquel personne n'a rien compris, mais ne rentrons pas dans ce débat.
C'est autre chose.
Et ça, c'est autre chose, mais vraiment, il a été extraordinaire. Voilà. Et nous l'avons réentendu, évidemment, puisqu'il chantait un rôle, bon, qu'on ne peut qualifier guère que de secondaire, mais il a parfaitement rempli dans la dernière Electra du Théâtre du Capitole. Voilà. Donc, Valentin Thiel, Brock Magnus Todenes, vraiment deux taminos.
De très devraient... haut niveau.
De très haut niveau. Alors, pour Valentin Thiel, c'est une prise de rôle. Hein. Donc, ça va être d'autant plus intéressant. Pamina, dont nous avons une montalbanaise, que maintenant on connaît à Toulouse,
oui.
Puisque bon, tout d'abord parce qu'elle est issue, c'est un pur produit du conservatoire régional de Toulouse. On l'avait découvert dans L'Enfant et les Sortilèges, où elle chantait le feu évidemment, puis dans Carmen, puis dans Dialogue des Carmélites, voilà. Bon, donc c'est pas une découverte à Toulouse, mais c'est quand même un grand rôle pour elle dans une nouvelle production, puis c'est une jeune cantatrice, hein. Voilà. Et puis ensuite, il va y avoir...
Faut dire son nom peut-être.
Oui, Anaïs Constant.
Anaïs Constant.
Oui. Ah bon, j'avais raté aussi l'épisode.
Merci Serge, je me le rappelais. Et son alter ego, c'est Marie Perbos, qui est une Française également, qui elle est un peu produit du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Alors pour elle, c'est pas une prise de rôle puisqu'elle a déjà chanté ce rôle à Tours. Voilà, Zarastro. Alors c'est Luigi De Donato, c'est pas lui qui était prévu au départ. Alors lui, il a 45 ans, mais il fait figure de patriarche. C'est pour vous dire, dans cette
jeune
distribution. Voilà. Et alors là, je me tournais un peu vers Serge, parce que lui, il l'a entendu, moi je ne l'ai pas entendu, mais il chantait le Basile du Barbier de Séville à l'Halle au Grain en 2010.
Oui, je t'avoue que j'ai oublié.
Bon, apparemment, ça n'a pas marqué.
Tu l'as oublié. Eh bien, merci. Alors, je comptais
désolé,
sur toi.
Désolé.
Je comptais sur toi, mais bon. D'accord. Mais moi non plus, je n'ai jamais entendu. Mais enfin, bon, il fait une énorme carrière. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas une prise de rôle non plus pour lui. L'autre est... Alors là, l'autre, il va falloir vraiment ouvrir bien les oreilles parce que c'est un jeune baryton basse franco-américain et que je ne connais pas, mais qui a été déjà repéré par le Metropolitan de New York, qu'il a déjà engagé. Donc, je pense que Christian Zaremba, dont je dis bien le nom, ben voilà, il mérite au moins le détour, hein, c'est sûr.
Il y a des prises de rôle aussi pour les Papageno.
Voilà, alors...
Double prise de rôle.
Alors, pour Papageno, il y a Philippe Estef. Alors, je ne sais pas, mais Serge, j'avais envie de me retourner vers
connaît,
toi.
Oui.
J'y vais pas, tu t'en souviens.
Ah oui, il y a de la région, Philippe Estef.
Bon, voilà. Alors, toi, tu l'as entendu dans Jacques Ury de l'annonce faite à Marie
en
2019.
Oui, absolument.
Ensuite, Jésus dans la Saint-Mathieu pour Passonbach d'abord.
Oui.
Voilà, alors...
Ah non, c'est un excellent chanteur. Hein. Oui. c'est très intéressant de l'entendre dans Papageno.
Ouais. Voilà. Alors, nous devions faire sa connaissance parce qu'il était prévu pour faire Albert dans les dernières reprises de Werther en 2019. Et puis, bon, ouais. Il a été déprogrammé. Et c'est
donc, la deuxième chance.
Au profit d'André Eibauer, qui avait été très bien d'ailleurs. Hein. Mais bon, cela dit, Philippe Estève fait un début de carrière.
Oui,
parce qu'il est jeune également.
Oui, hein. Il a une trentaine d'années, Philippe Estève.
Voilà, mais un début de carrière très confortable. Puis salué à l'unanimité. Voilà. Mmh. Ensuite, on va avoir. Alors, je l'ai dit de suite, il est belge, parce que le nom n'est pas fondamentalement flamand ni wallon, fait pas penser à la Belgique. C'est Camille Ben Hassein Lachiri. Alors, pardon, je le prononce certainement très mal.
Non, mais bon.
Mais bon, voilà. Alors, c'est un tout jeune bariton belge.
Plus que prometteur.
Mais plus que prometteur. Vraiment, lui aussi, voilà. Je crois qu'il faut aller le voir deux fois, quoi, cette flûte enchantée. Et ensuite, on va terminer, si vous voulez bien, parce que le temps presse, évidemment, avec la Reine de la Nuit, avec deux interprètes qui ont fait de ce rôle infernal leur rôle signature. Voilà, parce que, bon, elle le chante un peu partout. Il faut dire que lorsqu'on a une soprano qui est capable d'accrocher avec sérénité les contrefas des Reines de la Nuit, évidemment, malheureusement, on ne leur demande que ça. Ouais, faire éventuellement Lucia, mais bon, voilà. Et donc, du coup, la soprano turque Serenade Uyar va venir nous faire découvrir son talent, parce que c'est la première fois qu'elle chante à Toulouse, de même que Marlène Assaya, qui est une Française, là, pour le coup, et qui a fait également de la Reine de la Nuit son rôle signature. Après, il y a tout un tas de chanteurs dans les dames de la Reine de la Nuit, dans Monostatos, etc., dans l'orateur, enfin bon, il y a tout un tas. Au total, Christophe Gristy a signé 24 contrats de rôle
soliste. Il faut ça, oui. Voilà. Alors, on ne va pas conclure cette présentation sans écouter un extrait de la flûte enchantée. Je ne vais pas être très original puisque je vais vous proposer l'air le plus fameux, celui de la Reine de la Nuit, chanté ici par Marlène Assayag. L'air célèbre de la Reine de la Nuit, interprété ici par Marlène Assayag, une chanteuse qui fait partie de la distribution de la nouvelle production de la Flûte Enchantée, mise en scène par Pierre Rigal au Théâtre du Capitole. La première a lieu dimanche 19 décembre à 15h et il va y avoir ensuite 8 autres représentations jusqu'au 30 décembre. Nous devrions avoir Pierre Rigal comme invité d'honneur de Mélomanie mardi prochain. On en parlera donc un peu plus en détail. La veille de cette première, l'Orchestre National du Capitole est en concert à la Halle aux Grains, samedi 18 décembre à 18h. C'est un concert du cycle L'Orchestre du Capitole avec Jean-François Zigel. Il a été intitulé « Pom 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 ». Vous avez compris, ça indique qu'il va être question de la 5e symphonie de Beethoven. Donc Serge Chosy, pas de compositrice au programme cette fois-ci, mais les femmes musiciennes sont tout de même à l'honneur. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, parce que cette fois, l'orchestre sera dirigé par une chef, avec deux F-E, donc qui s'appelle Marzena Diakoun, qui est née en Pologne et qui a également appris le piano, qui a remporté le deuxième prix du concours international de chef d'orchestre du printemps de Prague en 2007 et du concours international de chef d'orchestre Fittelberg à Katowice en 2012. Donc vraiment une chef qui a
déjà un joli parcours,
qui a un beau parcours, et donc elle a été finaliste aussi d'un autre concours Lutoslavski, etc. Donc elle accumule les récompenses, donc on est très heureux de l'avoir à la direction de l'Orchestre National du Capitole pour disséquer avec Jean-François Zigel, comme il sait si bien le faire, cette fameuse 5e symphonie dite avec le destin qui frappe à la porte, d'où la signification des pompons.
Les quatre coups, c'est le destin, voilà. Les quatre notes, les quatre premières notes, c'est le destin, voilà, qui frappe à la porte.
Dixit Beethoven lui-même.
Lui-même. Voilà, donc voilà, Marcela Diakoun, qui était assistante de Miko Frank à l'Orchestre Philharmonique de Radio France en 2015-2016, et qui est première chef invitée de l'Orchestre de Chambre de Paris. Depuis 2020.
Voilà. Oui, tout de même, c'est une leçon des références.
Voilà, ce qui montre apparemment, en tout cas, qu'elle est demandée et appréciée. Voilà, puis cette année, on a remarqué qu'il y avait pas mal de jeunes chefs d'orchestre, invités au Capitole.
Absolument, absolument.
Avec le Capitole.
On rétablit un peu, non pas la parité, mais on rétablit un équilibre entre les chefs masculins et chefs féminines.
Qui sait, peut-être aura-t-on un jour une femme chef directrice musicale de l'Orchestre National du Capitole.
Sait-on jamais.
Sait-on jamais. Alors, l'Orchestre National du Capitole, je viens d'en parler, a bien sûr souvent joué la 5e symphonie de Beethoven. Nous allons donc pouvoir l'écouter dans une version dirigée par le chef italien Antonello Manacorda. La 5e symphonie de Beethoven, interprétée par l'Orchestre National du Capitole sous la direction d'Antonello Manacorda, une œuvre que va disséquer Jean-François Zigel avec l'ensemble symphonique toulousain dirigé pour l'occasion par la Polonaise Marcela Diakoun ce samedi 18 décembre à 18h à la Halle aux Grains. Et l'Orchestre de Chant de Toulouse est lui aussi très actif ces temps-ci. Il est de nouveau en concert au Centre culturel Henri Desbal de Toulouse, vendredi 17 décembre à 15h et à 21h, il y a deux concerts. Et devinez ce qu'il y a au programme. Eh bien, encore une symphonie de Beethoven, mais là il s'agit de la 6e, celle qu'on appelle la pastorale, Serge.
Oui, la symphonie pastorale dans une version pour cordes de Carl Fischer. Donc c'est une version particulière de la symphonie pastorale. Effectivement, on peut imaginer cette symphonie encore, on imaginerait mal la 5e, par exemple, uniquement jouée par des cordes, mais la symphonie pastorale, je crois que ça s'adaptera très bien. Et il y aura également une sonate pour cordes, la sonate numéro 3 de Rossini, et une symphonie de chambre du compositeur Juan Crisóstomo de Arriaga, donc grand compositeur espagnol, mais alors le pauvre qui est mort avant son 20e anniversaire, ce qui est tout de même
vraiment fauché en pleine gloire. Je pense qu'il a par eu le temps de connaître un peu la gloire, malheureusement, mais ça n'a pas, pas pu l'apprécier très longtemps. Donc il avait donné le prénom de Mozart, parce que le vrai prénom de Mozart, c'est Johannes Chrysostomus.
Oui, exactement. Et donc, parce que son père était un fan de la musique de Mozart, et donc il avait voulu faire de son fils un nouveau Mozart.
Voilà, donc la sonate pour cor numéro 3 de Rossini au programme également, et donc Ariaga, symphonie de chambre. Voilà. Et il y a un autre concert de l'Orchestre de Chambre de Toulouse le dimanche 19 décembre, cette fois-ci à 11h, ce qu'on appelle les concerts du marché à l'escale de Tournefeuille. C'est ça. On va retrouver Ariaga au centre du programme.
Voilà, oui, oui, même en début de programme, ce sera de nouveau cette symphonie de chambre, mais il y a trois autres compositeurs, tous espagnols, Joaquim Turina, la fameuse prière du Torero, qui est une œuvre qu'on entend relativement souvent, en quelque sorte, et Joaquim Rodrigo, là, ça sera Canzonetta. Et enfin, une œuvre, alors, qui n'est pas d'un espagnol, qui est de Luigi Boccherini, mais qui
le
a beaucoup...
Le plus espagnol des Italiens.
Ah oui, oui, qui a beaucoup travaillé à la cour de Madrid. Donc, Nuit de garde à Madrid, d'ailleurs, sera l'œuvre qui sera jouée par l'orchestre de chambre sous la direction de Gilles Colliard.
Eh bien, pour vous faire découvrir la musique de Juan Crisóstomo de Arriaga, ce compositeur espagnol mort dans la fleur de l'âge, voici un extrait de sa symphonie en ré majeur, le troisième mouvement, un menuet. Extrait de la symphonie en ré majeur de Juan Crisóstomo de Arriaga, le menuet du troisième mouvement. La symphonie de chambre du compositeur espagnol est donc donnée par l'Orchestre de Chambre de Toulouse au Centre culturel Henri Desbal de Toulouse le vendredi 17 décembre et puis le dimanche 19 décembre à l'escale de Tournefeuille. C'est la fin de ce numéro auquel je remercie Serge Chosy et Robert Pénavert d'avoir participé. Je rappelle que la première de La Flûte Enchantée, dans une nouvelle production mise en scène par Pierre Rigal, a lieu ce dimanche 19 décembre à 15h au Théâtre du Capitole. Il y a 8 autres représentations jusqu'au 30 décembre et je vous invite à vous renseigner, à réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.théâtreducapitole.fr pour le concert de l'Orchestre National du Capitole avec Jean-François Zigel et la 5e symphonie de Beethoven au programme samedi 18 décembre à 18h à la Halograin. C'est sur le site www.onct.toulouse.fr qu'il faut faire vos réservations et acheter vos places en ligne. Et enfin, concernant les concerts de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, au Centre Culturel Henri Desbal, vendredi 17 décembre à 15h à 21h à Toulouse, puis à l'escale de Tournefeuille, vendredi 19 à 11h, renseignements, réservations et billetterie en ligne sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la réalisation de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les mardis à 19h et les mercredis à midi. Merci de votre écoute toujours fidèle et très bonne semaine musicale à tous.